أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم والجهل، اللهم بصرنا بعيوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فعبد الله تعالى، tu vas écrire les, comment on termine aujourd'hui, les 13 attributs, tu vas les écrire inshallah. On écrit les... Tu vas les écrire ici, Inch'Allah. Oui. Je vais lui donner les 13 attributs. Non, les 13 attributs. Comme aujourd'hui, Inch'Allah, nous terminerons ce qu'on appelle Bab Sifat, c'est-à-dire ce qui concerne la partie dans la science du Tawhid qui concerne les attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc aujourd'hui, nous traiterons du dernier attribut, à savoir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant de commencer ce dernier cours, Inch'Allah, pas du Tawhid, hein, parce que les sujets Tawhid, Inch'Allah, on traitera un sujet la semaine prochaine, à savoir Al-Qadha wal-Qadr, qui est un sujet intéressant et important, et aussi d'autres sujets qui concerneront la vie dans l'au-delà, Alim al-Ghayb, Al-Jannah, Al-Nar, Al-Sirat, Al-Mizan, Ilari al-Dhalika. Il y a aussi des hadiths qui parlent de ça, rapporté par l'imam Bukhari, rapporté par l'imam Bihaqi, dans son livre Isma al-Sifat. Donc le sens de c'est-à-dire l'imam Ibn Kathir, il dit, le commandement qu'on tire de ce verset, c'est que la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, comme la majorité des savants disent que c'est l'eau. Il argumente ça, le qawlihi ta'ala, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. C'est-à-dire qu'à partir de l'eau, qu'on a créé toute chose vivante. Et quand on dit toute chose vivante, elle inclut toute matière. Hein. Ce n'est pas parce que, par exemple, le bois n'est pas vivant, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, هَذَا مِنَ الْإِعْجَازِ. C'est-à-dire, dans la langue arabe, il y a ce qu'on appelle le mafhum al-mukhalafa ou mafhum al-muwafaqa. Allah Azza wa Jal parle d'une chose et veut aussi inclure une autre chose. Donc, j'ai ramené, donc normalement c'est bon, tous les autres cours, voilà, tous les cours précédents qui n'ont pas été imprimés, sauf qu'il faut, je ne sais pas, il faut voir avec les frères et les sœurs ceux qui ont eu des cours et qui n'ont pas eu d'autres, pour essayer de récapituler, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, ça je vais te laisser, c'est Mohamed. Donc on a parlé la semaine dernière, sur l'attribut de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a parlé... Naam, la vie, le hayat, naam. Oui, tu mets les 13 du 13. Tous les 13, non, parce qu'aujourd'hui on va aller... Naam.
Le troisième attribut là qui n'est pas très...
La pérennité. Naam. Donc, comme j'ai dit, on a traité la semaine dernière de... Ne vous occupez pas de ça. Laissez le frère écrire avec le frère qui lui dicte. Inch'Allah, ça c'est pour la fin, ne vous inquiétez pas. On a parlé de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'irada, et on a parlé de l'qudra, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a parlé aussi qu'Allah Azza wa Jal, il a le lui, c'est-à-dire il entend. Et on a parlé aussi de la vie, en Allah Azza wa Jal hay. On a parlé aussi, quoi? Si, on a parlé de la vie. J'ai dit la vie. J'ai parlé de la vie la semaine dernière. La vue et la vie. La vie, on n'a pas parlé. Alors, on a parlé de la vie.
Oui, je crois, oui.
Soit la semaine passée ou celle d'avant. Celle d'avant. Revoyez vos documents.
La semaine dernière, qui est passé à la fin.
À la fin. Je me rappelle très bien qu'on en a parlé. De toutes les façons,
oui, il a vu ça.
Voilà. Pour vous donner un petit rappel, j'ai dit comme argument, textuel, dalil al-naqli, qawluhu ta'ala, huwa al-hayy, Allahu la ilaha illa huwa hayy al-qayyum. On parlait que, ayat al-kursi, surat al-baqara, on a traité de ça, on a dit qu'il est vivant, et il y a des preuves. On a dit raisonnable, pas logique, parce que la raison elle est plus large que la logique, bien que la logique, si elle est, comme dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, si elle concorde avec la foi, on la prend en considération. Et là, puisqu'Allah Azza wa Jal, il a de la science, il a le pouvoir, il a la puissance, il décide, il existe, etc. et il a de la science, donc il est vivant. D'accord ? La pérennité, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas de fin.
Il n'a pas de fin.
La pré-éternité n'a pas de début, et la pré-éternité n'a pas de fin. Il est le premier sans début, et le dernier sans fin. D'accord ?
Il est exemple de début et exemple de fin.
Ah, ça. Allah Azza wa Jalla, il est le premier. Le verset qui le dit. Il est le premier, c'est pas, le dernier, c'est pas dans le sens qu'il n'y a rien après lui. Mais quand on dit le dernier, c'est pas qu'ensuite il est fini, non. Sans fin. Donc il est le premier, sans début. Il n'a pas de début. D'accord. Aujourd'hui, c'est la parole d'Allah. On dit en français, ce qu'on dit en français. Le Coran, il a été révélé en arabe. Et chaque mot est porteur d'une charge très importante. Ça, c'est dans la parole des humains. Alors, que dire de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ? C'est encore plus fort. Ensuite, la langue, quand on traduit, l'a dit le frère tout à l'heure, on peut traduire, on peut trahir. C'est pour ça que quand on traduit, il faudrait bien poser des questions, comme vous l'avez souligné, comme vous avez posé, pour savoir quel est le sens, où la limite, etc. etc.
Dans les traductions, on peut trouver le mot qui se rapproche le plus.
Bien sûr, on peut même trouver, il y a des dégâts de beaucoup de livres maintenant qui sont, parce que c'est intéressant, je suis, on va dire, très content quand je rentre dans les librairies, je trouve beaucoup d'ouvrages en français. Mais malheureusement, je suis très content de voir que ça, c'est à la portée de notre jeunesse qui ne connaissent pas le français. Mais malheureusement, les gens, tellement ils font vite dans les traductions, pour des esprits commerciaux, ou esprits d'orientation de mouvement, parce qu'il y a des mouvements qui orientent leurs livres et font vite pour accaparer tous les jeunes qui sont dans les mosquées pour les faire rentrer dans leur groupe. Ça, c'est connu. Donc, il faut bien ouvrir les yeux que l'islam ne dépend pas d'un groupe ou d'un pays ou d'une secte, etc. L'islam appartient à tous les musulmans. Et depuis 15 siècles, historiquement et géographiquement, dans tout le monde musulman, tous ces gens-là, tous ces savants-là sont des musulmans. Personne n'a le droit d'exclure quiconque. On peut avoir une différence scientifique, mais on ne lance jamais un égarement ou un takfir ou un tadlir sur n'importe quel musulman. On est assez déchiré, notre Oumma est tellement déjanté, déchiré, nous devons nous unir. Je peux ne pas être avec toi sur une question, même s'il s'agit d'ordre, de tawhid, de aqid, etc. Mais le plus important, c'est d'être unis dans le même rang, parce qu'on a un seul Dieu, un seul Coran, un seul prophète, une seule direction de la Kaaba. Clair, hein. Au moment où les Occidentaux, avec leurs différences culturelles, leurs différences de langue, leurs différences de religion, ils se disent on est faibles vis-à-vis de la puissance américaine. Nous, on est des micro-États, et dans ces micro-États-là, on essaye de trouver des pactes. On est des spécialistes de la dispersion. Or, Allah Azza wa Jal, « Inna hadhihi ummatukum ummatun wahida » On est une Oumma unie, il faut qu'on reste unis. On peut avoir une différence, je peux ne pas être avec toi sur un verset, sur là. Nos savants antérieurs, pendant les siècles qui nous ont précédés, on va en parler, l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il a subi vis-à-vis des Mu'tazilites? Ils l'ont emprisonné, torturé, parce qu'il ne dit pas que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est créée, mais malgré ça, il n'a pas dit c'est des mécréants. Nous, s'ils nous giflent, ah tu es mécréant, va. Lui, ils l'ont torturé, ils ont expulsé des savants, etc., etc., etc. Non. Pour les traductions, je disais tout à l'heure, il y a un grand problème, c'est que nos frères qui traduisent, bon, barakallahu fihum, mais ils, pour trouver le mot, ils vont le chercher dans la théologie chrétienne, par exemple. Et ça, c'est un problème. D'accord ? J'ai trouvé ça beaucoup dans les traductions du Coran. On ne trouve pas le mot, comment ça se dit en français ? Pas qu'on va chez les chrétiens, quelque chose qui rapproche. Or, c'est un problème. Il nous faut des gens compétents en langue française. Il faut que nos jeunes fassent de la littérature. Il faut avoir un bac et s'inscrire dans la littérature française. Et apprendre en même temps la langue arabe pour nous traduire, etc. etc. Vous allez trouver dans les livres de théologie surtout, ou bien de faire, c'est-à-dire chaque discipline déjà chez nous a sa propre terminologie. C'est-à-dire que quand vous allez trouver le mot qadim, je l'ai dit, le mot qadim, ancien dans le fiqh, il n'a pas la même définition dans la théologie, dans l'aqida, dans le tawhid. Il n'a pas la même définition. Al-qadim dans le tawhid, c'est lui qui n'a pas de début. Il est le premier sans début. Mais dans le fiqh, qadim, c'est lui qui a plus d'un an. plus d'un an. Moins d'un an, c'est pas qadim. Donc, pour vous dire, chaque terminologie, nous savons, ils en mettent. C'est pour ça, avant de juger... je dirais, entre guillemets, un savant, il faut voir déjà dans quelle discipline il est en train de parler.
C'est un savant de hadith, il faut connaître la terminologie. Il ne faut pas se précipiter à monter les marches rapidement et se jouer le mufti et haram, la juz, bid'a, shirk, etc. Il faut être tout petit. Voilà. Un savant, c'est le rôle de savant, il faut le laisser au savant. Quelqu'un qui apprend, il faudrait qu'il reste quelqu'un qui apprend, etc. etc. Donc, quand on lit surtout les traductions du Coran ou bien les livres, s'il y a quelque chose de passage, c'est pour ça qu'il faut apprendre, connaître le tawhid et connaître la croyance, afin d'avoir les bases et les fondements, comment on définit les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand on voit quelque chose qui cloche, ou qui passe, on va dire, un peu, ça paraît un peu bizarre, quelque chose comme ça, on va chercher, on voit le mot qui est mal traduit ou quelque chose, on va s'assurer, on va voir ailleurs. Bon, puisque pour l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, la vie, puisqu'il y a des frères qui n'ont pas, je sais pas, peut-être j'étais un peu vite la dernière fois, Al-Hayat. Hayatuhu, thumma al-kalamu al-sam'u, thumma al-basar bidhi atana al-sam'u. Donc Al-Hayat, Allah Azza wa Jal, il est le vivant. L'argument, toujours, il faut commencer par l'argument du Coran, ensuite l'argument par la raison. L'argument, il y a des places ici, hein, si vous voulez. L'argument du Coran, ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyum al-qayyum. Allah Azza wa Jal, il dit qu'il est le vivant. Huwa al-hayy, la ilaha illa huwa. Donc vous allez trouver énormément de versets dans le Coran qui dit qu'Allah Azza wa Jal, il est le vivant. Ça, naam, qui confirme. Ça, pour ramener toujours le texte. Maintenant, on vient à la raison. On en a parlé, on a prouvé par les textes coraniques et par la raison qu'Allah Azza wa Jal, parmi ses attributs, il est l'existant. C'est pour ça que la classification aussi, elle est importante. D'accord ? La classification, c'est pas qu'on commence comme ça par les attributs d'une façon aléatoire. On commence toujours par l'existence. Yajibu lillahi al-wujud wal-qidam wal-baqa wal-mukhalaf. Vous allez trouver ça dans chez les spécialistes des hadiths. Il faut, parce que tout dépend, parce qu'on doit prouver déjà qu'il existe, avant de parler de sa puissance et son pouvoir et il écoute, d'accord, déjà quand il existe, ensuite, il est le premier sans début, ensuite il est le dernier sans fin, etc., etc. Donc, par la logique, quand on a parlé de tous ces attributs-là, arrivé à la vie, comme il peut être l'omnipotent, il a de la volonté, il a de l'omniscience, il a de l'unicité, il ne ressemble à rien, l'autosuffisance, la pérennité, etc. Et c'est lui qui a existé toute chose a besoin de lui. Toute chose a besoin de lui. Il n'a besoin d'aucune chose. Celui qui est les créatures, le Tout-Puissant, il a tous les pouvoirs, etc., etc. Il ne peut que être vivant. D'accord ? Un être humain, quand on dit la vie, là, la vie de l'être humain ne ressemble pas à la vie d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi ? Parce que la vie de l'être humain, on a dit toujours, elle dépend de quelque chose. L'être humain, il a besoin de boire, il a besoin de respirer, il a besoin de s'asseoir, il a besoin de dormir. Il a un début, et chaque début, il a une fin. C'est pour ça qu'on a parlé de la pérennité. L'être humain, il a un début. Chaque chose qui a un début, hein, elle a une fin. Ce qu'on appelle l'accident, c'est-à-dire al-hadaf. Al-hadaf, c'est-à-dire quelque chose qui a un début, il a une fin. D'accord, c'est un événement. Cet univers, il a un début, il aura une fin. Hein, l'omnipotent. C'est-à-dire que toute chose a besoin de lui, et lui, il a besoin de quoi que ce soit. On a donné un exemple, mathématiquement, on peut le prouver. Mathématiquement. On a dit quel est le plus grand numéro en mathématiques. Quel est le plus grand chiffre ? Un, il va dire un petit enfant, quel est le plus grand, il va dire plus grand numéro, c'est 1 milliard. L'autre, il va dire 10 milliards, 1 milliard, 2 milliards, et ainsi de suite. Un grand cheikh, on lui a posé la question, quel est le plus grand numéro ? Il a dit le 1. Le 1. Ah, en mathématiques, il faut le prouver. Il faut prouver, c'est vrai ou non, quand on dit quelque chose. Pourquoi le 1 ? Parce que chaque nombre, il a besoin du 1. Le 2, il a besoin de 1 plus 1. Le 3, il a besoin de 1 plus 1 plus 1. Et ainsi de suite. Et le 1, est-ce qu'il a besoin de quelque chose ? Non, il est 1. Donc, puisque tout s'il dépend de lui, il est le plus grand, attention. Mathématiquement, on peut le prouver. Mais bon, Inch'Allah. Donc, Allah Azza wa Jal, sa vie ne dépend de rien. La vie d'Allah Azza wa Jal ne dépend de rien. D'accord ? Elle ne dépend de rien. Il est le vivant. Contrairement à, on va dire, à nos frères dans l'humanité. Hein, c'est autorisé de dire, justement, c'est autorisé de dire que ce sont nos frères dans l'humanité, nos frères chrétiens, le Fils de Dieu, Jésus, ils disent qu'il était mort pendant 3 jours. Il est resté 3 jours et 3 nuits sans vie, enterré. avant de, d'être, avant de sortir de la tombe, etc., etc. La version chrétienne. Même nous, on accepte, on va dire, bon, on respecte votre croyance, mais expliquez-nous comment cet univers, il a pu être maintenu sans celui qu'il a créé pendant 3 jours. C'est ça. C'est très important. Ensuite, sans rentrer dans la contradiction de 1 plus 1 plus 1 égale 1, Dieu le Père, Dieu le Fils, etc., etc. Oui, mon frère, tu veux... Oui. Chaque chose, ou elle est dans le néant, ou elle existe, ou elle n'existe pas. Ou elle est vivante, ou elle est morte. La vie d'Allah Azza wa Jal ne ressemble pas à notre vie. Voilà. La vie d'Allah Azza wa Jal...
C'est là où je veux en venir.
Barakallahu fik. La vie d'Allah Azza wa Jal...
ne ressemble pas à la nôtre.
Elle ne ressemble pas à notre. Comme l'écoute d'Allah Azza wa Jal ne ressemble pas à notre écoute. Oui. Allah Azza wa Jal entend.
Même la main, il est la main. Écoute sans organe.
Ça c'est autre chose.
On peut pas dire que...
Ça c'est autre chose. La main, le pied, la main, le pied, il s'assoit là, là. Hop. Ça c'est autre chose. Ça parce que c'est des organes. C'est pas la même chose. On en traitera un autre jour, Inch'Allah, de ces versets-là. Ça s'appelle les versets ambigus.
Non. Excusez-nous, on est un peu... C'est pas qu'on veut intervenir tout le temps, c'est de la... Parce que...
Bon, tu as raison d'intervenir. Tu as raison d'intervenir comme tu veux. Non.
Donc la vie, c'est quand même lié à l'existence pour vous.
Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais on peut exister sans vie. Tu vas trouver les momies de Pharaon, il existe, hein, il est là. Pharaon, il n'a pas de vie. D'accord. La chose, elle peut exister mais sans vie. On a un arbre, il ne bouge pas, c'est du bois, il est allongé, il est sans vie. On a un mort, il est là, il existe, mais il est sans vie.
Un bout de fer.
Non. Donc, le hayat, c'est important. Les savants, ils ont ajouté cela et c'est important. Donc, nos savants, en étudiant le Coran et la Sunna, et tout ça, pourquoi ils nous font sortir ça, c'est par crainte pour notre foi et notre croyance, parce que les 3 premières générations, Salaf Salah, qui sont les 3 premières générations, ils n'avaient pas besoin de ces sciences-là pour leur expliquer. Ils étaient proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait la foi, là, le Nour al-Muhammadi, la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des sahaba, elle était toujours présente, elle remplissait les cœurs. En plus, les sectes égarées, les philosophies, etc., n'étaient pas encore rentrées pour un peu perturber la croyance des musulmans. Une fois que le monde musulman il était en contact avec civilisation, entre guillemets civilisation, les philosophies gréco-romaines, etc., donc ils étaient... Il y a la logique qui commence à rentrer, il y a l'esprit d'Aplaton, etc., etc. Donc la logique d'Aristote, etc. Donc ça a commencé un peu à toucher même quelques esprits de savants musulmans tels que les Mu'tazilites. Attention, ce sont des savants, des grands spécialistes même dans le tafsir, dans la langue arabe, etc. Ils ont commencé à donner des interprétations selon la philosophie grecque ou romaine, qui dérive de la vraie croyance sunnite. Alors les savants musulmans, ils ont dit attention, à chaque fois qu'il y a un dérapage, il faut mettre des règles afin de préserver notre croyance. Donc, il y a 2 grands imams, l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari et l'imam Abu Mansour al-Maturidi, ils ont fait les bases de la science du tawhid. Comme l'imam Shafi'i, il avait la base de la science du usul fiqh, quand Abu al-Aswad du'Ali, par un ordre de l'imam Ali, il a fait la base de la langue arabe, parce que les enfants des sahaba, ils ont commencé à ne pas bien prononcer la langue arabe, il a dit, attends, il faut faire des règles. Chaque science, à un moment donné, les savants, quand ils voient qu'il y a un problème, ils mettent des règles, ils observent. Comme la science de la spiritualité, etc., etc. Quand les musulmans ils ont commencé à considérer la prière comme du sport, etc., ils ont dit il faut une science, hein, on peut l'appeler spiritualité, science de etc., etc. Donc c'est une science qui garde la foi du musulman, qui préserve, c'est-à-dire le cœur de l'islam même. D'accord. Donc aujourd'hui pour Al-Hayat, c'est ça. La vie d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, il est le vivant, et il ne mourra pas, puisqu'il n'a pas été précédé d'un néant, donc sa vie, elle est éternelle.
Il vit sans endroit.
Sans endroit, bien sûr, c'est lui qui a créé l'endroit. Si on dit qu'il est dans un endroit, Allah Azza wa Jal ne change pas, vous êtes tous d'accord? Est-ce que Allah Azza wa Jal change? Allah Azza wa Jal ne change pas. Est-ce que Allah Azza wa Jal change? Il ne change pas. Si quelqu'un nous dit qu'Allah Azza wa Jal change, donc il n'a rien compris de la définition d'Allah, de Dieu chez les musulmans. Puisque Allah Azza wa Jal ne change pas. Si on dit qu'il est dans un endroit, c'est lui qui a créé l'endroit. Il était où avant de créer cet endroit? D'accord? Si on dit qu'il était, il est comme il est avant, après et pendant la création de l'endroit.
On ne dit pas, il est où, j'ai entendu des gens dire, Allah, il est en moi.
c'est pas bon de dire ça.
Et, non, ça c'est pas bon, bien sûr. Bien sûr. Allah Azza wa Jal, on va dire, il est proche de nous, ouais, comme dit le verset, que notre, comment on dit,
la veine jugulaire.
Voilà, que la veine jugulaire. Il est plus proche de nous, c'est-à-dire il est plus, il, c'est-à-dire que ça veut dire il est proche de nous. Il sait ce qu'on il est dans notre. Oui. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Lam tasi'ni samawati wal ard wa wasi'ni qalbu abdi. Les cieux et la terre n'ont pas pu me, c'est-à-dire m'englober, et le cœur de mon serviteur me prend. Je suis dans le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis dans le cœur de mon serviteur? C'est pas qu'Allah Azza wa Jalla va rentrer dedans. Non, c'est que la croyance, c'est l'iman, la foi. Attends, je vais te dire une chose. Il dit pas je descends, il dit yenzilu. Attends. Pour revenir. Il dit pas je descends. Parce que le mot descendre, quand on cherche dans le dictionnaire français, il est limité. Le mot yenzilu en langue arabe,
proche.
Attends, le mot yenzilu en langue arabe, tu vas trouver 60 définitions. Bon. Si on dit yenzilu, je suis d'accord avec toi, dans la, tu dis yenzilu, moi je crois au texte, et Allah a'lam de son vrai sens. Par contre, si je mets dans ma tête qu'il descend dans le sens du haut en bas, dans ma tête, hein, je dis bien dans ma tête. Non, je dis si. Je ne dis pas toi, je dis si. La question qui se pose, le dernier tiers de la nuit. Bien qu'aujourd'hui, le dernier tiers de la nuit, tous les spécialistes, tout le monde de musulmans, non-musulmans, tout le monde est d'accord qu'il y a toujours le dernier tiers de la nuit sur Terre. Vous êtes d'accord? Il est toujours, hein, le dernier tiers de tous les temps. Tu es d'accord? Hein, tu es d'accord? Tu es d'accord? Puisque le dernier tiers, il est toujours sur Terre. Allah Azza wa Jal, il est au-dessus de son trône, sur le ciel, où il est en bas, sur la terre. C'est pour ça, nos savants, ils ont dit, il ne faut pas qu'on rentre dans ces détails. Barakallah. Ils ont dit, ni le comment, ni le sens.
Mais il ne faut pas déformer non plus les choses.
On n'a pas déformé. Tu sais, mon frère, qui est-ce qui a dit que c'est sa clémence qui descend? Excuse-moi. Ouais, c'est l'imam Malik qui a dit ça. L'imam Malik, c'est pas n'importe qui. Qui a 900 cheikhs, 600 des sahaba, 600 des tabi'in et 300 des tabi'in. Rapporté par l'imam Ibn Abdel Barr, qui est reconnu comme le Bukhari du Maghreb, dans son livre At-Tamhid. C'est pas n'importe qui a dit ça. C'est l'imam Malik, attention. Ensuite, on a dit que le hadith, il est expliqué par un hadith. Le verset, il explique. On a un autre verset, un autre hadith, qui explique ce hadith-là. Qu'est-ce qu'il dit? Fa'amara malakan min al-malaika fayunadi. Il a ordonné à un de ces gens, de ses anges, d'aller dire, Allah Azza wa Jal, il vous dit, est-ce que. Quand on dit Chirac, le 14 juillet, il a libéré tous les prisonniers. Est-ce que c'est Chirac qui est descendu ouvrir? C'est pas lui qui descend. C'est de la métaphore. C'est de la métaphore. D'accord, la langue arabe, elle est pleine de métaphores. On peut prendre le texte, je dis bien, on peut prendre le texte comme il est, sans l'interpréter. Comme disait Ibn Uyayna, qui est un grand tabi'i, Bila tashbihin, wala ta'tilin, wala takyifin, wala ta'wil, on ne donne aucune interprétation. Je dis, moi, je prends le texte comme il est, wa tafsiruhu tilawatuhu wa sukutu alayh. Son commentaire, son exégèse, c'est de le lire et de se taire et d'accepter, de croire à ce qui a été rapporté sans lui donner une interprétation. Ça, c'est la vie des trois premiers siècles parce qu'ils avaient la foi. Parce qu'ils étaient proches, ils comprenaient la langue arabe comme elle est révélée, ils n'avaient pas besoin de ces détails-là, et comprenaient le verset dans son homogénéité de la sourate, du Coran englobé. Nous, comme on est tellement accrochés à la vie matérielle, empoisonnés par les philosophies, etc., etc., nos savants, dès les trois premiers siècles, ils ont dit, attention, la philosophie, la logique, là, il faut ces gens-là, si on ne leur met pas des règles, les pauvres, ils vont croire à n'importe quoi. Donc, ils nous ont donné, c'est comme si un médicament. Quand l'imam Malik dit « Tanzilu rahmatuh » parce que Allah Azza wa Jalla, le plus important dans ce hadith, il ne faut pas laisser rester ici. « Yanzilu rabbuni ala sama ad-dunya fi thuluthi al-akhir min al-layl » Pourquoi Allah Azza wa Jalla a dit ça? On se penche sur « Est-ce qu'il descend ou il ne descend pas ?» On ne regarde pas. Le sens, c'est le sens du hadith. Ce moment-là, il est important. Réveillez-vous. Adorez Allah Azza wa Jal. Priez, etc., etc., etc. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Is'alou ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamoun. Est-ce que moi je suis ahl al-dhikr? Moi, je ne connais même pas la langue arabe. Je dis, parle de moi. Je ne connais même pas le Coran par cœur. Pour déjà comprendre, je dis, c'est clair. Je dis, ah, le verset, c'est clair. C'est pas clair, mon frère. Qui est-ce qui décide, c'est clair? C'est les grands spécialistes du tafsir, c'est les commentateurs. Tous les commentateurs du tafsir, tous, je dis tous, sans exception, ils ont pris ces versets dans leur sens métaphorique. Il n'y a pas un. Et celui, je défie quiconque de nous ramener un seul qui n'a pas pris ces versets. Commençons par Ibn Kathir, l'élève d'Ibn Taymiyyah. Rahimahullah. Rahimahullah, jami'an. Commençons par Ibn Kathir, qui je considère comme son tafsir, moi je le considère comme le meilleur tafsir. Moi, personnellement, avec les chouïrs qu'on a pris, c'est le meilleur tafsir parce qu'il rapporte, il fait l'exégèse du Coran par le Coran et l'exégèse du Coran par les hadiths. L'exégèse du Coran par le Coran, l'exégèse du Coran par les hadiths. Il ramène des chaînes de hadiths. Il a donné le sens métaphorique de tous les versets ambigus. Je parle à des gens qui n'ont jamais peut-être assisté à un cours de tawhid, etc., etc. Si, moi je pense, à notre niveau, les gens, ils sont perturbés dans leur foi. Quand on commence à te dire que la croyance musulmane, c'est la main d'Allah, c'est le pied d'Allah, Allah il est assis, Allah il descend. C'est pas ça la croyance musulmane. C'est pas ça. On peut, au passage, ramener ces versets-là et il faut faire attention de ne pas sortir le verset de la sourate, parce qu'il faut le laisser dans la sourate pour comprendre l'enchaînement. Si tu sors non seulement le verset de la sourate, si tu sors le mot du verset, tu n'as plus le sens. Il faut laisser le mot dans le verset, il faut laisser le verset dans la sourate. Comme ça, on aura le sens, à condition qu'on essaye de le comprendre comme ils le comprennent les commentateurs, les mufassirines, Al-Tabari, Al-Qurtubi, Ibn al-Arabi, le mufassir, tout ce que vous voulez comme mufassirines, même les chiites.
Ce qu'on doit avoir, en fait, c'est la foi en l'existence.
L'existence, ce que je disais au début, c'est qu'il faut avoir, je voudrais ça le donner comme résumé à la fin, c'est pour ça qu'on parle de ces attributs, pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne parle pas de son essence, c'est-à-dire on ne parle pas de son essence, on ne cherche pas comment il est, elle est son essence. Par contre, Allah azza wa jal nous renvoie à ses attributs. Dans le Coran, afala yandurula, ne voit-il pas, ne regarde-t-il pas, n'observe-t-il pas, wa fi anfusikum afala tubsirun, et en vous-même, ce que vous observez pas, c'est regardez comment l'homme il est fait, regardez les cellules, regardez comment le sang, et regardez. D'accord. Donc ça, Allah Azza wa Jalla nous renvoie à ses attributs. Donc pourquoi les savants ils ont remarqué que ces attributs-là, ce sont les attributs qui reviennent toujours. Toujours dans le Coran, c'est eux qui reviennent. Et dans ces attributs, dans chaque attribut, on trouve un groupe d'un nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala. On reviendra, Inch'Allah, sur cela. Moi, je n'ai pas voulu traiter le sujet des versets ambigus pour laisser les gens dans leur. Pour ne pas les déranger, on va dire. Premièrement, pour ne pas. Mon frère Salafi, je donnerai les noms comme ils sont, pour ne pas déranger mon frère Salafi, avec qui je ne partage pas. Je les aime énormément, c'est mes frères. Je ne partage pas leurs avis sur ces questions-là. Je ne veux pas les déranger. Deuxièmement, pour rester sur quelque chose dont on est tous d'accord, c'est la croyance des salafs. Et les frères salafis, et les frères Ash'ari, je ne sais pas, Tabligh, tout le monde est d'accord sur le principe de la croyance des salafs. Non, on va rester sur cette croyance-là, puisque tous, on est d'accord sur cela. Il n'a pas besoin d'être en haut, en bas, à gauche, à droite. L'imam Tahawi, il le dit. D'accord ? L'imam Tahawi, dont tout le monde dit, oh, Tahawiya, 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 et on ne lit pas Tahawiya. On lit les commentaires de Tahawiya, mais on ne lit pas Tahawi. Tahawi dit une chose et on lit ce que les commentateurs de Tahawi. L'imam Tahawi dit La tahwij al jihad al-sidq ka sa'il al-mubtada'at. Il n'est pas dans les six directions comme toutes les créatures. D'accord. L'imam Tahawi qui le dit, c'est pas moi, qui a vécu dans les trois premiers siècles. Il était un des grands des salafs. On revient à notre cours. On a terminé avec le hayat. C'est bon pour tout le monde. Aujourd'hui, al-kalam. Al-kalam. Allah azza wa jal yatakallamu bi-kalam. وكلم الله موسى تكليما الله عز وجل يدي دون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات parmi les messagers il en est certains d'entre eux que nous avons élevé au-dessus d'autres Allah a parlé à certains d'entre eux et conféré à d'autres un rang privilégié il nous dit dans un verset sourate Nisa verset 164 وكلم الله موسى تكليما donc Allah عز وجل nous dit dans le Coran car Allah Azza wa Jal, il a parlé. Allah Azza wa Jal parle. Il n'a pas cessé de parler. Aïwa. On a donné l'argument qu'Allah Azza wa Jal parle. Allah Azza wa Jal a parlé à Sayyiduna Moussa. Je ne sais pas qui est-ce qu'il y a. Celui qui va parler de vibration la dernière fois, il est là. Non, il n'est pas là. Il a dit comment Allah, Sayyiduna Moussa, il a écouté. Allah Azza wa Jal a parlé à Sayyiduna Moussa directement. Sans messager. D'accord ? Sans messager. Il n'a pas, sans intermédiaire, il a, Allah Azza wa Jalla, il a transmetté le message, c'est-à-dire sa parole, aux autres prophètes, à travers qui? À travers Sayyiduna Jibril. Son rôle, hein, c'est de transmettre la parole d'Allah Azza wa Jalla, le message. Bon, Allah Azza wa Jalla pouvait transmettre à tous les prophètes sa parole sans intermédiaire. De la même façon, Allah Azza wa Jalla a parlé à Sidna Moussa. Tout le monde a accepté qu'Allah... Sidna Jibril, c'est... Excusez-moi, je vais un peu schématiser. Il n'est pas allé voir Allah Azza wa Jalla, voilà, il lui donne... Non. Sidna Jibril, c'est une créature. Hein. Sidna Jibril, c'est une créature. Elle a des dimensions, elle rentre dans l'espace, elle a un début, elle a un fin, etc. Une fin, etc., etc., etc. Par contre, Allah Azza wa Jalla ne peut... Lui, il ne peut être... Hein, comme une créature. C'est un créateur. D'accord? On a parlé sur cette chose-là, il ne peut pas, la dernière fois. Bon. Donc, Allah Azza wa Jal, il a parlé, mais sa parole, ce n'est pas une voix. Laysat bi sawtin wa la harf. Ce n'est pas une voix. Ce
n'est pas un son.
Ce n'est pas un son, barakallahu fik. Ce n'est pas un son, barakallahu fik, pour la correction. Ce n'est pas un son. Vous allez voir les 10 commandements. Oui. On parlera. Oh, Moïse, moi.
C'est
pas ça. Rien, c'est pas ça. C'est pas ça.
Il n'a pas de lettres non plus.
Ah, sainte. Parce que quand on dit lettres, non pas dans le sens Coran, c'est des lettres. Le Coran qu'on a entre les mains. Coran, salam Allah.
Le Coran, c'est les paroles d'Allah.
Le Coran qu'on a entre les mains là, celui-là. Les feuilles, ils ont été fabriquées dans une maison d'édition, l'encre, etc. Vous êtes d'accord? Mais le sens, le contenu qui est à l'intérieur, on parle de ça. Ah. Elle est quoi? Elle a un début? On a dit c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque attribut d'Allah Azza wa Jal, il n'a pas de début, il n'a pas de. Et ça ne ressemble à. Ça c'est l'attribut d'Allah Azza wa Jal. Al-Imam Ahmad, pourquoi cette science de Tawhid, parmi les définitions qu'on lui a données, on dit ilm ul kalam. On dit la science du kalam aussi. On dit la science du Tawhid, on dit usul ad-din, on dit al-aqida, on dit ilm ul kalam. Vous pouvez trouver dans les ouvrages ilm ul kalam. Pourquoi? On rapporte que c'est-à-dire le sujet qui a été débattu avec force, hein, un grand débat, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Vous rappelez qu'on a parlé des Mu'tazilites, c'est on va dire un groupe, on ne va pas dire une secte, on va dire un groupe. Enfin, franchement, je leur dois un grand respect, les Mu'tazilites. Je vais dire pourquoi. Avec tous les dérapages que les Mu'tazilites avaient, c'était des gens de science. Ils ont des grands dérapages. Alhamdulillah, on avait nos savants sunnites qui les ont matraqués. Dès le deuxième siècle, ils étaient présents, très tôt, fin du deuxième siècle, de l'Égypte. Hein. Donc, ces Mu'tazilites-là, c'est des gens qui donnaient la priorité dans la compréhension du texte à la raison. D'accord? Ils jugent le texte d'après la raison. Ensuite, c'est-à-dire si le texte contredisait la raison, ils disent... On va interpréter le texte d'une façon qu'il va concorder avec la raison. D'accord? Exemple. Allah Azza wa Jalla, il a créé le paradis et il a créé l'enfer. D'accord? Tout le monde. Le Jannah wa Nar. D'accord? Les Mu'tazilites se sont posés une question. Eux, c'est la logique. Ils ont dit Allah Azza wa Jalla a créé le paradis et l'enfer. Bon. Quelqu'un qui naît fou, il est un fou. Tu lui dis, Shadon la ilaha illallah, et tu regardes, il ne sait pas ce que tu racontes. Il va où? Paradis ou en enfer? Pour les sunnites, il va au paradis. D'accord. Eux, ils te disent, il va ni au paradis. Pas logique. Voilà, moi, au milieu. Ni en enfer, ni en paradis. Ils ont dit, Allah Azza wa Jalla a créé une terre, et ni paradis, ni enfer, il va les mettre tous les fous là-bas, il va mettre ceux qui sont morts. Voilà. Ceux que la da'wa, ils n'ont jamais entendu parler de l'islam, ceux qui vivent dans les Esquimaux, tout ça, la jungle, il va mettre tous les enfants qui sont morts, ceux qui sont morts avant d'être l'âge de la puberté.
Ils vont pas paradis avec
eux. Non, pour eux, je parle du Mu'tazilite. Donc, ce groupe-là, ils disent que Allah Azza wa Jal, ils ont démarré par la logique, ils ont mis des règles pour leur logique, à partir, ils ont mis 5 règles. On ne va pas rentrer dans leur doctrine pour expliquer. C'est des grands spécialistes de la philosophie et de la théologie, et ils ont pu stopper et répondre aux attaques de la philosophie grecque et romaine, ils ont défendu la croyance musulmane. C'est très important de le connaître. Parce que vis-à-vis de la philosophie grecque et romaine de l'époque, il y avait des philosophes qui venaient dans le monde musulman. Tu lui donnes un philosophe grec-romain, tu lui donnes l'inversé, qu'est-ce que tu me racontes, toi ? Eux, par la raison, c'est la raison, ils utilisent la raison. Ils ont pu répondre, ils ont même converti beaucoup. Non. C'est venu postérieurement. Non. Ghazali, c'est-à-dire sa tâche était de répondre à la philosophie.
Oui, il l'a fait aussi.
Pas au Mu'tazilite. Ils étaient déjà détruits. Il y avait avant lui l'imam al-Baqillani, al-Juwayni, Abu Hassan al-Sha'ari, il y avait des grands savants qu'ils ont massacré déjà les Mu'tazilites. L'imam Ahmed ibn Hanbal, tout le monde connaît l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui est un grand spécialiste de Tawhid et de Fiqh, un grand savant musulman. Il a subi cette épreuve, parce que les Mu'tazilites, ils ont commencé à prendre de l'ampleur dans la société musulmane, ils sont arrivés au pouvoir. Donc le calife des musulmans, à un moment donné, c'était un Mu'tazilite. Ah ben, puisque c'était un Mu'tazilite, alors tout le monde doit suivre la croyance Mu'tazilite. Avec le bâton, avec celui qui ne suit pas la croyance Mu'tazilite, ils ont commencé à faire la terreur. Donc les dictatures ne sont pas nouveaux dans le monde musulman. Ça date depuis... Ils ont commencé par la force à rendre les gens Mu'tazilites. Les Qouvats, les juges, c'est des Mu'tazilites. Bon, mais ils ont dit, tant qu'il y a des grands savants comme l'imam Ahmed, c'est un problème. L'imam Ahmed, rahmatullah alayh, il avait, dans son cours, quand il donnait le cours, 5000 personnes qui assistaient. Imaginez, à l'époque, il n'y avait pas de haut-parleurs ni micro ni grain. 5000. Il y a 800 que des savants. 800 que des savants, quand je dis savants, c'est pas savants. Qui pèse, lourd, très lourd. 800. Ashab al-Ama'in, comment ils s'appellent. Ceux-là, c'est parce qu'eux, ils l'entourent autour du Cheikh. Aucun li barhou. Parce que ce qu'il dit l'imam Ahmed, chaque 50 mètres, 60 mètres, c'est plein. L'autre, il entend, il à haute voix, il transmet. D'accord. Oui. Et il y en a d'autres qui viennent, parce que c'est un mythe, il y en a.
Des haut-parleurs synchronisés.
Voilà. Mais il y en a des gens qui viennent, ils rapportent. وكنا نأتي إلى مجلس الإمام أحمد لا نسمع كلامه ونكتفي برؤية صمته وسمته. Il venait voir l'imam Ahmed rahimahullah. Il disait, on ne pouvait pas entendre ce qu'il disait, mais ça nous suffisait de le regarder, la façon comment il parlait, la façon comment il se taisait. Ça remplissait leur cœur de foi. صمته وسمته. Aujourd'hui, on trouve des gens qui vont te parler. Ça rentre pas dans le cœur. Il te parle jour et nuit, je l'entends, ça ne rentre pas dans le cœur. Sa parole ne dépasse pas le cœur. C'est pour ça, on va en parler après, Inch'Allah. Cette science, mes frères, ce n'est pas pour la prendre comme ça dans les feuilles. Sinon, c'est un nouveau livre. Hein. C'est Al-Fa'ida, l'objectif de la science. L'objectif. Man darasa tawhid, khaf Allah. Apprendre le tawhid, connaître Allah Azza wa Jalla, la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de le craindre. C'est de suivre son message. C'est ça le fruit de l'apprentissage du fiqh, c'est de connaître le halal et le haram. L'apprentissage du tawhid, c'est pour avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Donc la parole d'Allah Azza wa Jalla, l'imam Ahmed, revenant à l'imam Ahmed, ils ont ramené les savants, il y avait des savants à l'époque, il y avait peur. Il n'y a tout. Allah Azza wa Jalla parle de... C'est la peur, il y a des savants qui ont peur. Ils ont lu Mu'tazilite, ils ont dit, c'est pas possible que la parole d'Allah Azza wa Jalla, ils ont dit, sa parole, il l'a créée. Elle est créée. Elle n'est pas éternelle. Les Mu'tazilites, ils disent la parole, ils utilisent la logique. Ils disent le Coran, il est créé. Ils disent, pourquoi? Pour des raisons, je ne vais pas revenir. Ils disent, ils ont arrivé à cela parce que c'est un peu long. Ils disent que la parole d'Allah, Azza wa Jal, elle est créée. Nous, on a les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas créés. D'accord, c'est l'attribut. Parce que ce n'est pas possible que quelque chose qui appartient à Allah, Azza wa Jal, qui vient de lui, et c'est une création. Donc, une partie d'Allah Azza wa Jal, c'est une création. Ça, c'est dangereux. Oui. Ils ont ramené des savants, il y en a ceux qui ont peur, ils ont dit d'accord. Ils ont fait peur de la torture, etc. Il y en a un, ils lui ont ramené le Coran. On dit, que dis-tu de celui-là? Il a dit, celui-là, et il est crié. Quand tu sais, il a vu le prix, il a dit, non, je parle de mon doigt. Il a dit, ne vous inquiétez pas. Donc, chacun a trouvé, Imam Ahmed, quand ils l'ont ramené, ils l'ont torturé, frappé, et entre guillemets, tous les quatre grands imams, ils avaient un problème avec les califes de l'époque, Imam Malik, Abu Hanifa, rahimahullah, ils étaient tous avaient un problème parce qu'ils disaient la parole d'Allah Azza wa Jal, même si elle ne plaisait pas au gouverneur, ils la disaient. Imam Ahmed, il a été torturé, frappé, etc., etc. Il a dit au gouverneur de l'époque, le gouverneur lui a dit, il faut que tu crois que Allah Azza wa Jal, sa parole, elle est créée. Il lui a dit, Imam Ahmed lui a dit, on va voir par la fenêtre. Les 5000 élèves de l'imam Ahmed attendaient tous avec avec leur table, tous, donc, ils écrivaient. Il lui dit, va voir par la fenêtre. Va par la fenêtre du château, il voit 5000 personnes. Et derrière eux, des milliers de gens qui ne sont pas des gens de science. Tous, ils attendent qu'est-ce que l'imam Ahmed va dire. S'il a dit la parole d'Allah, il va écrire, il va écrire. Toutes les générations vont croire à ça. Il va dire, regarde ce qu'ils sont en train d'attendre. Il lui dit, ils sont en train d'attendre ta réponse. Il va dire, dis-leur alors que la parole d'Allah Azzawajal n'est pas créée. La torture. Rien. Il est resté inflexible. Et c'est pour ça que la croyance elle est restée. Et donc les Mu'tazilites. Ensuite, il y avait un grand spécialiste, Imam Abul Hassan al-Ash'ari, qui était resté, qui est 40 ans Mu'tazilite. Il était fils de. Comment dire Donc son père, c'était le mari de sa mère. Ouais. Il n'est pas son père. Ouais, comment on dit ça?
Beau-père. Le beau-père, c'était le chef
Mu'tazili. C'était son beau-père et c'est son cheikh. Il est resté 40 ans, donc il maîtrise parfaitement la philosophie, la croyance et les idées, la logique, etc. des Mu'tazilites. Mais à un moment donné, il a vu qu'il y avait des contradictions, même dans le point de vue de logique. Même dans leur logique, sans parler des versets, dans leur logique, il y avait des contradictions. Parce que eux, dans leur argumentation, ils disent que Allah Azza wa Jal doit nous endicher les sunnites, Allah Azza wa Jal n'est pas obligé de... Allah Azza wa Jal, un bon croyant, il peut le faire entrer en enfer ou non? Il fait ce qu'il veut, on est d'accord. D'accord. Il peut le plus pourri du monde, il le met au paradis. Tu vas lui dire, ah, pourquoi... Non. Il fait le ma'asha ou aïkhtar. Walakin Allah Azza wa Jal, wa'ada wa aw'ad. Wa la yukhlifu al-mi'ad. D'accord. On est d'accord. Naam, akhti. Naam. Non, même les Mu'tazilites étaient des musulmans.
Oui, non.
C'était des sunnites. Il y avait d'autres groupes, des qadarites, il y avait quelques groupes. Ils étaient incapables parce que les Mu'tazilites... Oui. Je vais te dire pourquoi. C'est une très bonne question. Parce que les Mu'tazilites, parce que les sunnites de l'époque, c'était des gens qui ne s'intéressaient pas, on va dire, beaucoup à l'analyse et l'argumentation par la raison, par la logique. Ils disent, on a la foi, on est proche. Ils étaient proches. Et les Mu'tazilites, avec le raisonnement, ils ont commencé à gagner du terrain, surtout chez les gens, monsieur tout le monde, de base, monsieur tout le monde. Parce qu'il vient à la personne, il va lui parler par logique. Regarde, tac, 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 ils ont commencé à gagner du terrain. Et les sunnites, en se privant de la raison, ils sont... on va dire, marginalisé. Jusqu'à ce que, à cette époque-là, il y avait des répliques. Imam Ahmed, il a répliqué, mais il n'a pas utilisé la raison. Il a dit, non, nos textes, il ramenait le verset, il ramenait le hadith. Bien sûr, Imam Ahmed, c'est un sunnite, bien sûr. Hein? Imam Ahmed, Ibn Hanbal, Imam Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, tous c'est des sunnites, bien sûr, bien sûr. Naam, quatre écoles, toutes les quatre écoles, c'est des sunnites, d'accord? Bien sûr. Bien sûr, ils ont suivi la sonnette du prophète. Bon, alors, quand l'imam Abu Hassan al-Ash'ari est venu, qui est resté, il était un des disciples, il baignait depuis son enfance, 40 ans chez les Mu'tazilites, il est devenu même un cheikh. Le cheikh des Mu'tazilites, c'est son beau-père. Il a écrit même des ouvrages, il est devenu un grand spécialiste. Un jour, il est resté 15 jours chez lui, comme le cas de Al-Ghazali. Al-Ghazali, il est resté chez lui parce qu'il... Abu Hassan al-Ash'ari, il a dit, il y a quelque chose qui cloche dans la croyance Mu'tazilite. Parce que lui, il était sincère, il croyait que c'est ça la croyance musulmane. Attention, les Mu'tazilites, ils ne sont pas là pour déraper les gens, ils croyaient que c'est la bonne. Parce que les gens qui sont dans les sectes et les groupes, ils croient que c'est la... C'est pour ça que le Taïmé... Ils sont plus là. Mais il y a des traces. Actuellement, Mohamed est au courant, on a en Jordanie un petit groupe qui est sorti pas longtemps, qui se réclament des idées des Mu'tazilites. On a des fois, de temps en temps, Amara et tout, on a quelques penseurs musulmans, hop, ils disent, et personnellement, je suis d'accord avec eux dans le sens où les musulmans doivent un peu utiliser la raison. Ils se sont trop stagnés sur le texte. C'est-à-dire, on est nos savants de l'époque, ils ont donné la force au texte, etc., mais ils sont devenus des grands savants dans l'astronomie, mathématiques, physique, ils ne sont pas restés, tu vois. Donc, c'est-à-dire, le texte, le Coran, c'est très important, mais je lui donne la valeur. Allah Azza wa Jal, il parle, il est Oulil al-Bab, il parle aux gens du cœur qui réfléchissent, etc., etc. Bon. Et même Abou Hassan Jali, il a constaté qu'il y a une contradiction, il a fait un débat avec son cheikh, je ne vais pas rentrer dans les détails, et il a eu le dessus sur son cheikh. Débat logique. Bon, je vais vous le dire rapidement, ce débat. La question sur les Mu'tazilites, elle est la suivante. Que Allah Azza wa Jal est obligé de nous donner le meilleur. Chez les Mu'tazilites, par la raison. Allah Azza wa Jal, il est as-salah wa al-aslah. Dans la vie et dans l'au-delà. Il est obligé de nous donner le meilleur. Retenez cette base chez eux. As-salah wa al-aslah. Bon. Au lieu qu'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire, il est obligé de se donner du meilleur. Bon. Il a dit à son cheikh, quand un enfant meurt, petit, il va où? Il lui a dit, selon leur légère, il va ni en enfer ni au paradis. Il va dans cette terre. Voilà. C'est une épreuve. Il lui a dit, pourquoi il va dans cette... Il lui a dit, selon la base, que Allah Azza wa Jal lui donne le meilleur. Allah Azza wa Jal dit, l'enfant lui dit, Allah, pourquoi tu ne m'as pas laissé grand? Faut que j'aille au paradis. Allah Azza wa Jal lui dit, non, le meilleur pour toi, c'est d'aller dans cette vie intermédiaire, parce que je sais quand tu seras grand, tu feras des bêtises, tu feras des péchés, donc tu iras en enfer. Donc c'est bien pour toi de rester ici. Abou al-Hassan al-Ashari, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, et ceux qui vont en enfer, qui sont grands? Ils vont dire aussi, Allah Azza wa Jal, pourquoi tu ne nous as pas mouru jeune pour qu'on aille dans cette terre? C'est meilleur pour eux. Il s'est bloqué. Donc il l'a bloqué par la logique. Et là, Abou al-Hassan al-Ashari, il est revenu aux sunnites. Il est revenu aux savants sunnites. Il y a beaucoup de savants sunnites, je ne vais pas comment, l'imam al-Qalansi, l'imam al-Kulab, je n'ai pas cité beaucoup, qui ont commencé avant Abou al-Hassan al-Ashari d'utiliser la raison. Mais ils n'étaient pas très, 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 très forts dans l'analyse de la raison. Et même Abou al-Hassan al-Ashari, comme c'était un grand spécialiste, il a commencé à étudier avec eux les textes sunnites, etc. Et il a dit, écoutez, c'est très important, maintenant il faut qu'on fasse des bases d'une science de tawhid qui défend la croyance sunnite en défendant nos textes par la raison. Donc le fondateur de la science de tawhid, depuis, c'est l'imam Abou al-Hassan al-Ash'ari. D'accord? Mais en même temps, il y avait un grand savant qui s'appelle Abou Mansour al-Maturidi, qui était du côté de l'Inde, du Pakistan, etc. Parce que Abou al-Hassan al-Ash'ari, c'est de ce côté-là, du côté d'Irak, de côté du monde arabe. Voilà, Bilad Sham. Et un autre savant, à la même époque, il avait la même idée de répondre au Mu'tazil du Fard. Il avait ils ne sont pas rencontrés, jamais. Ils sont arrivés au même résultat. Il y a deux écoles de tawhid, on va dire, et ils ont une petite différence de 5-6 questions qui sont des questions sans importance. Pourquoi? Parce que quand ils ont fait leurs règles, ils n'étaient pas ensemble, chacun a fait ses règles, ses bases, qui sont différentes aux autres, dans les définitions des mots, etc., des terminologies, etc. Il est, comme vous le savez, du côté de Pakistan, Inde, etc., la plupart c'est des hanafites. Et tous ils suivent cette école de tawhid, l'imam Maturidi. Et tous les autres, Malikites, Shafi'ites, beaucoup de Hanbalites, ils suivent celle de l'imam Abou al-Hassan al-Ash'ari. Dans la base. D'accord? C'est dans le fiqh, un Shafi'i, l'autre est Hanafite, l'autre est Malikite, etc. Allah Azza wa Jal, il sait ce qui va se passer, il a transmis à Sidna Jibra'il, le Coran Karim, Nazala Munajjaman. Le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nuit du destin, tout complet. Complet. Et Sidna Jibra'il, Allah Azza wa Jal lui a ordonné de le descendre partiellement. D'accord? Non. Selon les circonstances, etc. etc. Non. Bien sûr. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de yeux pour voir, n'a pas besoin d'oreilles pour entendre, n'a pas besoin de langue, il n'a pas besoin d'organes. C'est nous qui avons besoin des choses pour faire quelque chose. Et Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de choses pour faire quelque chose.
On ne peut pas dire que quand il a descendu le Coran au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas dire que c'est une traduction.
Non.
On n'a pas non. à dire ça. On, a, non. on doit dire que c'est, une, c'est les paroles d'Allah.
Bien sûr.
Il n'y a pas une traduction
non.
qui a été
non.
faite.
Non, jusqu'à présent, même jusqu'à
c'est
présent.
C'est important, ça.
Jusqu'à présent, la parole d'Allah Azza wa Jal, quand on dit maintenant, A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillah ar-rahim, qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait comme ça.
C'est important.
Il parlait comme ça. Contrairement au texte qu'on a entre les mains, bibliques, etc., c'est la traduction de la traduction de la traduction. D'accord. Et voire même une traduction qui a été écrite 300 ans après la mort de Jésus, selon Saint Matthieu, selon etc. etc. C'est pas la même chose. Non, non, mon frère.
Voilà. Le Coran, en fait, il a été révélé lors de la nuit du destin, c'est ça?
Il a révélé
les versets selon...
Il est resté, on va dire, dans le premier ciel. D'accord, c'est Najbara'il, il est descendu, mais il n'a pas tout donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour dire que tout le Coran, Allah Azza wa Jal lui a donné à Sina Jibra'il alayhi salam.
En entier.
D'accord. Sina Jibra'il, il l'a transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam au fur et à mesure. D'accord. Non. Mes chers frères, bon, pour le kalam, je pense que c'est bon, il n'y a pas autre chose à ajouter. Ou bien le langue qu'on a entre les mains, on l'a dit. C'est pas cela. Bien que l'imam Ahmed, on lui a ramené tellement il était catégorique pour qu'il ne laisse pas les Mu'tazilites faire. Ils lui ont dit, ce Coran-là, regarde, ce Coran-là, celui-là, il n'est pas créé. Il a dit, oui, celui-là, il n'est pas créé. C'est-à-dire qu'on n'est pas, il sait que s'il leur décrit, ils vont dire, ah, regardez, l'imam Ahmed l'a décrit. Ouais. Donc il ne leur a rien laissé. Il a dit, oui, même celui-là. Ils ont dit, regarde, mais ça. Il a dit, oui, ça. Pour leur enlever. Il ne leur a rien laissé pour échapper. Mais nous, pour comprendre, on sait qu'il s'agit du sens et de ce qu'on prononce, etc. etc. Parole elle-même. Comme elle est rapportée par les Sahaba et leurs tabi'in, etc. jusqu'à nos jours, parce que le Coran, avant qu'il soit écrit, c'est une parole qui est dite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et qui l'a transmettée. Mais pour Inch'Allah, pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut trouver l'ordre. Allah Azzawajal nous dit, faites ça. On peut trouver l'interdit, ne faites plus ça. On peut trouver l'information, l'histoire. Voilà ce qui s'est passé. Donc le Coran, c'est-à-dire, oui, dans le sens où, oui, je comprends. C'est-à-dire dans le sens où, c'est pas parce que l'humanité n'existe plus que le Coran ne va pas exister.
Même si on le brûle, le Coran...
Non. D'ailleurs, Allah Azzawajal nous dit dans le Coran, « Inna... » Nous avons révélé ce dit que ce Coran et c'est nous qui le protégerons.
Même si
toute l'humanité sera anéantie, il ne reste aucun être humain, le Coran, il restera le Coran, puisque c'est un des attributs d'Allah. Si on dit qu'il est perdu, si on dit qu'il est perdu, qu'il n'existe plus. Donc c'est un attribut d'Allah Azzawajal qui est parti. Or Allah Azzawajal, ses attributs n'ont pas de fin. D'accord.
Ma'ani.
Ma'ani, c'est l'essence. L'essence. Ma'ani, c'est l'essence. L'essence. C'est le pluriel. Donc ces attributs, mes chers frères et sœurs, les 13 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dont on a parlé à travers ces cours-là, l'existence d'Allah Azza wa Jal, la pré-éternité, la pérennité, l'autosuffisance, la non-ressemblance, l'unicité, l'omniscience, la volonté, l'omnipotence, la vie, lui, la vue, la parole. Donc tous ces attributs d'Allah Azza wa Jal, il ne faut pas les considérer comme des parties en Allah Azza wa Jal. D'accord ? Ce n'est pas des parties en Allah. Naam. Allah Azza wa Jal, on a dit dans les premiers cours, qu'Allah Azza wa Jal, ces attributs-là englobent les autres attributs et englobent tous les noms divins. Parce que, ça, c'est une méthodologie afin d'apprendre le tawhid.
C'est-à-dire, le minimum qu'il faut savoir selon les savants.
À partir de là, c'est-à-dire, on a un autre mot. On a un autre mot. Quand on cherche un autre attribut ou un autre nom, on le retrouve
là-dedans.
Exactement. Il est dans l'un de ces attributs-là. D'accord. Il est automatiquement dans l'un de ses attributs. Non. Bien sûr. Mefhoum, Inch'Allah. Même pour les noms d'Allah Azza wa Jal. Tout le monde sait que les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a 99. Que nous connaissons, 99. Allahumma inna as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ou allamtahu ahad min khalqik. Ou ista'tharta fi alam al-ghayb. Rapporté par Imam Tirmidhi et d'autres. Oh Allah, je t'implore par tes noms divins, qui sont connus. Ou bien tu as des noms divins que tu as appris à quelqu'un de tes serviteurs. Ouvrez bien les oreilles, c'est un hadith, hein, sahih. Donc il y a quelques gens, ils ont des noms divins que les autres n'en ont pas. Hadith qui le dit. Ou bien tu as des noms que tu n'as révélés à personne. Donc Allah Azza wa Jal, on est très limité pour connaître, c'est-à-dire quelque chose. Déjà, on est impuissant de nous connaître nous-mêmes. Non. On est très limité, Akhi. Très limité. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, c'est une grande bénédiction qu'il nous a envoyé ce Coran. Parce que seul avec notre petite cervelle, on rapporte qu'un grand sahabi, une personne est venue lui dire, un sahabi parlait de l'islam, il lui a dit, l'autre lui a dit, écoute, moi je ne peux pas croire à une chose, je veux voir votre Dieu. Je veux que je le voie, je veux le voir pour croire. Il a dit, il n'y a pas de problème. Et ce monsieur, c'est un marin, il vit devant la mer. Il lui a fait un petit trou, comme ça. Il lui a dit, tu peux faire rentrer toute cette mer dans ce petit trou-là? Ah, il lui a dit, impossible. Il lui a dit, comment tu veux ta cervelle peut englober Allah subhanahu wa ta'ala azim qui a créé l'océan, la terre, les cieux, le... Il lui a dit, écoute, tu ne peux pas. Allah azza wa jalla, comme tu t'as créé comme ça, tu es incapable. Le jugement dernier, Allah azza wa jalla te donnera une force en toi, tu pourras le voir. Tu pourras le voir. Mais ça ne fait pas dire que tu vas le voir dans un endroit, une direction. Il a dit, Et même Abu Hassan al-Sha'ari répond à cela. Au moins, qui disent, non, on ne peut pas voir Allah. Utilise la raison. Si on le voit parce qu'on le voit, il devient un corps. Il leur a dit l'exemple du miroir. Il a dit, vous voyez des choses dans le miroir. Il regardait à l'époque, il n'y avait pas la télé. Abou Hassan al-Sha'ari. Il le répondait par la logique. Il a regardé le miroir, on voit des choses, mais ce n'est pas du corps. Juste pour leur donner un exemple.
Ouais, nous, on ne cherche pas à savoir comment il est. Il nous a dit simplement qu'on verra, c'est tout.
Exactement.
On attend.
Barakallahu fik. Non. Donc, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a vus, chaque musulman devrait comprendre le sens de ces attributs-là que Allah Azza wa Jal ne les a pas transmis comme ça. Pour découvrir qu'est-ce que c'est qu'Allah Azza wa Jal, sa puissance. Quand on regarde, on marche dans cet univers, on voit des choses, il faut qu'on pense à sa puissance. Quand on voit Allah Azza wa Jal, quand c'est lui qui décide, l'autre il dit, voilà, moi tu vas voir. C'est Allah qui décide, c'est pas toi. Même quand tu fais une chose, c'est Allah qui a voulu. C'est ça, voir le vrai tawhid, le vrai sens, que c'est Allah Azza wa Jal qui décide. Ça ne veut pas dire qu'on va maintenant écraser les gens et dire, écoute, moi c'est Allah qui décide. Non. Non, ce n'est pas dans ce sens. Il faut être petit, il faut être un grand serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas s'attacher, c'est ça le tawhid. Il ne faut pas s'attacher aux gens. Il ne faut pas s'attacher, c'est pas, c'est-à-dire ton manger, ta bouffe, l'argent, ce n'est pas les gens, c'est Allah Azza wa Jal. Bien que Allah Azza wa Jal nous dit, allez travailler, faites ceci, faites cela. Le sahabi qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé son chameau comme ça en liberté, il est venu voir le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ton chameau, tu l'as attaché? Non, je compte sur Allah Azza wa Jal. Non, il a dit, attache-le et compte sur Allah Azza wa Jal. Yaqilha wa tawakkal. Donc tous ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il faut savoir que où on est, où on va, il est avec nous. Il ne faut pas avoir peur. D'accord? Ça, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es seul, tu es avec les gens, il faut que ça soit la même chose. La pérennité, que si tu perds quelqu'un de cher, et que Allah Azza wa Jal, tout le monde partira. Il n'y a que lui qui va rester. Tu ne sais pas. Tu vois, tu es en train de le pleurer, dans deux secondes, tu vas le rejoindre. On ne sait pas. L'autosuffisance, il faut que la personne, même si elle est riche, même si elle est ceci, cela, il faut qu'elle comprenne qu'elle est faible, qu'elle n'est rien, qu'elle dépend toujours de quelque chose, etc., etc., pour tout. Les autres attributs. Donc à chaque fois qu'on voit quelque chose, il faut que cette croyance, que cette foi, il faut qu'elle se métamorphose dans nos actes. Fasaddaqahu l'amal. Amanu wa amilu. Allah Azza wa Jalla, toujours dans le Coran, il dit, ils ont cru, ils ont fait. Da'iman yatakallam al-mu'min, alladhina amanu wa amilu salihat. C'est-à-dire que la croyance, si, parce que sinon on devient avec un grand chercheur dans la Sorbonne, un grand... Je ne sais pas, les orientalistes aussi, c'est des grands chercheurs dans le théohide, ils vont sortir des choses, mais dans les faits, il ne fait rien. Mais, par contre, tu peux trouver une vieille qui habite dans une montagne, qui n'a jamais été à l'université, elle ne connaît pas les détails, mais elle jeûne toujours, elle prie. Moi, je préfère ça là que d'avoir une librairie, une bibliothèque dans sa tête, et on ne fait rien. Donc, connaître des choses, avoir ce savoir-là, c'est une responsabilité, c'est un honneur, premièrement, et c'est une responsabilité. Premièrement, de transmettre, c'est très important, de transmettre quand on connaît une chose, il faut la transmettre. Et deuxièmement, la comprendre, il faudrait qu'elle soit, on la voit dans nos actes. Il faudrait qu'on la voit dans nos actes. Quand on voit le ciel, il faudrait qu'on réfléchisse par Allah Azza wa Jal, quand on voit la terre, quand on voit les cieux, quand on voit les petites parties, à chaque chose qu'on voit dans cet univers, même dans les actes des êtres humains, il faudrait qu'on pense à Allah Azza wa Jal, et on pense comment Allah Azza wa Jal, subhanallah, il fait ces choses-là. Quel Allah Azza wa Jal, combien il est puissant. Et ça augmente la... Le but, c'est ce que je suis en train de dire. C'est de faire attention de ne pas avoir shirk.
C'est
de ne pas associer Allah. Ça, c'est de ne pas... Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mon frère, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça.
Ça m'empêche de faire le shirk.
Mais il n'y a pas que ça. Bon, très bien. Maintenant, ça m'empêche de faire le shirk. Je suis dans le bon tawhid. Non, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses. Tu me comprends?
C'est important, c'est très important.
Mais bien sûr.
Parce qu'il a dit, quoi? Le tawhid, je ne sais pas si un hadith du prophète, il a dit, le tawhid, il va brûler les péchés quand on sera devant Allah. Le tawhid, il brûlera les péchés.
Oui, je suis d'accord avec toi. Le prophète, c'est la première des choses qu'il est venu faire, c'est d'abolir, d'anéantir les idolâtries, les statues, et etc., etc., qui existaient. Ça, c'est très important. On est tous d'accord. Mais il ne faut pas passer d'une extrémité à une autre. Pourquoi j'ai répondu au frère, c'est pas que ça. Parce qu'il ne faut pas tomber dans une certaine, paranoïa, qu'un petit geste d'un musulman, oh, tu fais du shirk.
Non, bien sûr.
Non, je ne te parle pas de toi, mon frère. Je ne parle pas de toi. Très important. Un musulman qui dit la ilaha illallah Muhammad rasoul Allah, c'est un musulman. Si on voit qu'il fait des erreurs dans le tawhid, on ne le taxe pas de mushrik, peut-être on va essayer de lui expliquer. Je vois une dame qui va dans une tombe, elle dit, oh, c'est du flan, donne-moi, c'est cela. Je dis, ah, c'est du shirk, mushrik, non. Je viens lui expliquer. Oh, des hommes, excusez-moi. Barakallahu fik. À la raison.
Et des fois, j'en viens beaucoup des hommes.
On met toujours dans le... Barakallahu fik, Orti. Barakallahu fik. Un homme ou une femme qui va demander un sidi flan, donne-moi, etc. On va lui expliquer. On ne va pas le taxer. Peut-être que...
On va faire du chiffre sans savoir.
Voilà. Donc, mais il faut pas, j'ai dit, parce que j'ai vu des frères, ils ne parlent que de ça, ils ont une paranoïa sur ce problème-là, chiffre. Il faut sortir un peu de cette labyrinthe. Les musulmans, le hadith, il est rapporté par... J'ai oublié. Imam al-Bayhaqi, d'autres, j'ai oublié qui encore, que Shaitan, il y a Issa. Il est déçu, il est tellement, il s'est annulé badaf et jazirat l'arabe, que le shaitan, comment dire, c'est-à-dire il est déçu et
désespéré.
Barakallahu fik. Il est désespéré parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de shirk. Donc il va créer autre chose dans la jazirat l'arabe, c'est-à-dire il n'y aura pas de la tri, mais il va créer d'autres trucs pour semer la zizanie entre les musulmans. Et c'est ce qui se passe. Hein? Voilà, il fait la zizanie. Mais parce qu'il sait très bien qu'il ne va pas arriver en shirk, mais il fait de la zizanie. Donc, c'est pas pour autant de ne pas parler aux gens sur le shirk, de ne pas leur dire attention. Mais chaque chose, il faut lui donner juste sa partie qu'il faut, sa vraie valeur. Donc, le plus important pour nous, c'est qu'un musulman, soit quand il lit le Coran, il passe par des versets, ou bien soit quand il vit dans cette vie, ou bien dans son travail, dans son comportement avec les gens, etc., il faudrait qu'il pense aux attributs d'Allah Azza wa Jal. Pour penser à Allah Azza wa Jal, c'est pas comment il est fait, c'est-à-dire son être, son essence, comment il est fait, mais de ses attributs, parce que c'est lui qui nous pousse à découvrir c'est-à-dire sa puissance, sa valeur et tous ses attributs à travers sa créature. Non, c'est la fin des attributs. Il faut les apprendre, il faut les réviser. La semaine prochaine, inshallah. Barakallahu fik, barakallahu fik, t'inquiète pas. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa la sallallahu alayhi wa sallam fi khusril ladina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Barakallahu fik.